grille salariale et salaire minimum. Il ne fait aucun doute que le salaire minimum joue un rôle essentiel dans la formation et l'évolution des inégalités salariales, comme le montrent les expériences françaises et américaines. Chaque pays a en ce domaine son histoire propre, sa chronologie particulière. Rien d'étonnant à cela, les régulations du marché du travail dépendent notamment des perceptions et des normes de justice sociale en vigueur dans la société considérée et sont intimement liées à l'histoire sociale, politique et culturelle propre à chaque pays. Les États-Unis utilisent le salaire minimum pour augmenter fortement les salaires modestes dans les années 1950-1960, puis délaissent cet outil à partir des années 1970-1980. En France, c'est exactement l'inverse. Le salaire minimum est gelé dans les années 1950-1960 et beaucoup plus régulièrement utilisé depuis les années 1970. Le graphique 9.1 illustre ce contraste saisissant entre les deux pays, avec des courbes inversées qui finissent par se croiser en 1984-1985. On pourrait multiplier les exemples nationaux. Le Royaume-Uni a choisi d'introduire un salaire minimum national en 1999, à un niveau intermédiaire entre les États-Unis et la France. Il est en 2013 de 6,19 livres par heure, soit environ 8,05 euros. Des pays comme l'Allemagne et la Suède ont choisi de ne pas avoir de salaire minimum au niveau national et de laisser aux syndicats la tâche de négocier avec les employeurs des salaires minima et le plus souvent des grilles salariales complètes au niveau de chaque branche d'activité. En pratique, les minima dans ces deux pays sont en 2013 supérieurs à 10 euros par heure dans de nombreuses branches, donc plus élevés que dans les pays dotés d'un salaire minimum national. Mais ils peuvent être sensiblement inférieurs dans certains secteurs peu régulés ou peu syndiqués. Afin de fixer un plancher commun, l'Allemagne envisage d'introduire un salaire minimum national en 2013-2014. Il n'est évidemment pas question d'écrire ici l'histoire détaillée des minima salariaux et des grilles salariales dans les différents pays et de leur impact sur les inégalités salariales. Plus modestement, il s'agit plutôt d'indiquer brièvement, suivant quels principes généraux il est possible d'analyser ces institutions qui régulent dans tous les pays la formation des salaires. Quelle est en effet la justification de règles telles que des grilles de salaire plus ou moins rigides ou un salaire minimum ? La première est tout simplement qu'il n'est pas toujours facile de connaître, à tout moment et en tout lieu, la productivité marginale d'un salarié donné. C'est évident dans le secteur public, mais c'est tout aussi clair dans le secteur privé. Il n'est pas si simple de savoir, au sein d'une organisation comportant plusieurs dizaines de salariés, et parfois plusieurs dizaines de milliers de salariés, quelle est exactement la contribution d'un salarié individuel à la production d'ensemble. On peut certes obtenir une estimation approximative, tout du moins pour les fonctions et tâches duplicables, c'est-à-dire qui peuvent être occupées par plusieurs salariés de façon identique ou quasi identique. Par exemple, s'agissant d'un ouvrier sur une chaîne de montage ou d'un serveur dans un restaurant McDonald's, l'entreprise peut calculer combien lui rapporterait, en termes de chiffre d'affaires supplémentaire, le fait d'avoir un ouvrier ou un serveur de plus. Mais il ne s'agira, dans tous les cas, que d'une estimation approximative, d'un intervalle de productivité et non d'une certitude absolue. Dans ces conditions, comment les salaires doivent-ils être fixés? Plusieurs raisons suggèrent que laisser au chef d'entreprise le pouvoir absolu de fixer chaque mois, ou bien chaque jour, pourquoi pas, le salaire de chaque employé peut non seulement être porteur d'arbitraire et d'injustice, mais également d'inefficacité pour l'entreprise dans son ensemble. En particulier, il peut être collectivement efficace de faire en sorte que les salaires soient relativement stables dans le temps et ne varient pas de façon incessante en fonction des aléas des ventes de l'entreprise. Le plus souvent, les propriétaires et les dirigeants de l'entreprise disposent en effet de revenus et de patrimoine sensiblement plus élevés que ceux de leurs salariés et peuvent donc plus aisément amortir les chocs de revenus de court terme. Dans ces conditions, il peut être dans l'intérêt général que le contrat salarial comporte également une dimension assurantielle, dans le sens où le salaire est garanti dans le temps et se répète chaque mois, quasiment à l'identique, ce qui n'interdit pas des primes ou des bonus. C'est la révolution de la mensualisation des salaires, qui s'impose progressivement dans tous les pays développés au cours du XXe siècle, dans les lois et dans les négociations entre salariés et employeurs. Le salaire journalier, qui était la norme au XIXe siècle, disparaît petit à petit. Il s'agit d'une étape essentielle dans la constitution du salariat comme groupe social déterminé, caractérisé précisément par un statut et une rémunération stable et prévisible, et en cela clairement distinct du petit peuple de journaliers et d'artisans ouvriers payés à la tâche qui caractérise les sociétés des XVIIIe et XIXe siècles. Cette justification des salaires fixés à l'avance comporte évidemment des limites. Si les ventes s'effondrent durablement, alors le maintien des salaires et de l'emploi au niveau antérieur peut en pratique être le plus sûr chemin vers la faillite de l'entreprise. Tout est une question de degré. Le fait que les salaires bas et moyens soient globalement beaucoup plus stables que le niveau de production et que les profits et les salaires élevés absorbent l'essentiel de la volatilité de court terme est une bonne chose, mais la rigidité salariale absolue est à éviter. Outre cette justification fondée sur l'incertitude et le partage social des risques, l'autre argument classique en faveur des salaires minima et des grilles salariales est le problème des investissements spécifiques. Concrètement, les fonctions et tâches particulières qui doivent être remplies dans une entreprise donnée exigent souvent de la part des salariés des investissements spécifiques à l'entreprise, dans le sens où ils ne sont d'aucune utilité, ou du moins d'une utilité limitée dans les autres entreprises. Il s'agit par exemple des méthodes de travail, de l'organisation ou de qualifications particulières liées au processus de production spécifique à l'établissement considéré. Si le salaire peut être fixé unilatéralement et modifié à tout moment par le chef d'entreprise, sans que les salariés connaissent à l'avance leur rémunération, alors il y a de fortes chances que ces derniers ne s'investissent pas autant qu'ils le devraient. Il peut donc être dans l'intérêt général que les rémunérations des uns et des autres soient fixées à l'avance. Au-delà de la question des grilles salariales, cet argument fondé sur la notion d'investissement spécifique s'applique également aux autres décisions de la vie d'une entreprise et constitue la principale raison pour restreindre le pouvoir des actionnaires, jugés parfois trop court-termistes, et instituer une propriété sociale et partagée entre tous les stakeholders de l'entreprise, y compris bien sûr les salariés, comme dans le modèle de capitalisme rhénan évoqué dans la deuxième partie. Il s'agit sans doute de la justification la plus importante pour les grilles salariales. Plus généralement, dans la mesure où les employeurs disposent d'un pouvoir de négociation supérieur à celui des salariés et où l'on s'écarte des conditions de concurrence pure et parfaite, décrites dans les modèles théoriques les plus simples, il peut être justifié de restreindre le pouvoir des employeurs en instituant des règles strictes sur les salaires. Par exemple, si un petit groupe d'employeurs se trouve en situation de monopsone sur un marché du travail local, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment les seuls à pouvoir offrir du travail, du fait notamment de la mobilité réduite de la main-d'œuvre locale, alors ils tenteront vraisemblablement d'exploiter au maximum leur avantage et de baisser les salaires autant que possible, éventuellement nettement au-dessous de la productivité marginale des salariés. Dans ces conditions, imposer un salaire minimum peut être non seulement juste, mais également efficace, dans le sens où une augmentation du minimum légal peut rapprocher l'économie de l'équilibre concurrentiel et augmenter le niveau d'emploi. Ce modèle théorique, à base de concurrence imparfaite, constitue la justification la plus évidente pour l'existence d'un salaire minimum. Il s'agit de faire en sorte qu'aucun employeur ne puisse exploiter son avantage concurrentiel au-delà d'une certaine limite. Là encore, tout dépend évidemment du niveau du salaire minimum. Cette limite ne peut pas être fixée dans l'absolu, indépendamment de l'état général des qualifications et de la productivité dans la société considérée. En l'occurrence, de multiples études menées aux États-Unis dans les années 1980-2000, notamment par Card et Kruger, ont démontré que le salaire minimum américain est tombé à un niveau tellement bas au cours de cette période que son relèvement permet d'augmenter les bas salaires sans perte d'emploi, ou même en augmentant le niveau d'emploi suivant le plus pur modèle de monopsone. Sur la base de ces études, il paraît probable que l'augmentation de près de 25% actuellement envisagée aux États-Unis, de 7,25$ à 9$ l'heure, n'entraînera pas ou peu de perte d'emploi. Il est bien clair que cela ne peut pas se poursuivre indéfiniment. À mesure que l'on augmente le salaire minimum, les effets négatifs sur le niveau d'emploi l'emportent progressivement. Si l'on multiplie le salaire minimum par 2 ou 3, il serait bien étonnant que l'impact négatif ne domine pas. Concrètement, il est plus difficile de justifier un fort relèvement du salaire minimum dans un pays comme la France, où il est relativement élevé, relativement au salaire moyen et à la production moyenne par salarié, que dans un pays comme les États-Unis. Pour augmenter le pouvoir d'achat des bas salaires en France, mieux vaut mobiliser d'autres outils comme l'amélioration des qualifications ou bien la réforme fiscale. Les deux outils sont d'ailleurs complémentaires. Pour autant, le salaire minimum ne doit pas être gelé excessivement. Il est problématique de faire augmenter durablement les salaires plus vite que la production, mais il est tout aussi malsain de faire augmenter les salaires, ou une partie importante d'entre eux, moins vite que la production. Toutes ces institutions et politiques publiques ont un rôle à jouer et doivent être utilisées de façon adéquate. Résumons. À long terme, investir dans la formation et les qualifications est la meilleure façon d'augmenter les salaires et de réduire les inégalités salariales. Sur longue période, ce ne sont pas des salaires minima ou des grilles salariales qui font que les salaires sont multipliés par 5 ou 10. Pour atteindre ce type de progression, l'éducation et la technologie sont les forces déterminantes. Il n'en reste pas moins que ces règles jouent un rôle essentiel pour fixer les salaires à l'intérieur d'intervalles déterminés par l'éducation et la technologie. Or, ces intervalles peuvent en pratique être relativement larges, à la fois parce que les productivités marginales individuelles ne peuvent être connues que de façon approximative et du fait de phénomènes d'investissement spécifiques et de concurrence imparfaite. Comment expliquer l'explosion des inégalités américaines? La limite la plus frappante de la théorie de la productivité marginale et de la course-poursuite entre éducation et technologie concerne sans doute l'explosion des très hauts revenus du travail observés aux États-Unis depuis les années 1970. D'après cette théorie, on pourrait certes expliquer l'évolution en évoquant un progrès technique biaisé en faveur des hautes qualifications.
Skill-biased technical change.
Autrement dit, une explication possible, et relativement populaire au sein d'une partie des économistes américains, pourrait être que les très hauts salaires ont progressé beaucoup plus fortement que le salaire moyen aux États-Unis depuis les années 1970. Tout simplement parce que l'évolution des qualifications et de la technologie a fait que la productivité des salariés les plus qualifiés a progressé beaucoup plus vite que la productivité moyenne. Cette explication, outre son caractère quelque peu tautologique, on peut toujours expliquer n'importe quelle déformation des inégalités salariales en évoquant un changement technique adéquat, pose cependant plusieurs difficultés majeures qui la rendent, à mon sens, assez peu convaincante. Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, la montée des inégalités salariales aux États-Unis concerne avant tout les très hauts salaires. Les 1% des rémunérations les plus élevées et plus encore les 0,1% les plus élevés. Si l'on considère le décile supérieur dans son ensemble, les 10% les plus élevés, alors on constate que les 9% ont certes connu des progressions salariales supérieures à la moyenne des salaires, mais néanmoins sans commune mesure avec les progressions observées au niveau des 1%. Concrètement, les rémunérations autour de 100 000 $, 200 000 $ ont progressé à peine plus vite que la moyenne, alors que celles supérieures à 500 000 $, et plus encore les rémunérations de plusieurs millions de dollars, ont littéralement explosé. Cette très forte discontinuité au sein des hauts salaires pose une première difficulté importante pour la théorie de la productivité marginale. Si l'on examine l'évolution des qualifications de ces différents groupes, que ce soit en termes de nombre d'années d'études, de sélectivité des filières suivies ou d'expérience professionnelle, il est bien difficile de détecter la moindre discontinuité entre les 9% et les 1%. Autrement dit, sur la base d'une théorie objectiviste fondée sur les qualifications et les productivités, on aurait dû observer des progressions salariales relativement uniformes au sein du décile supérieur, ou tout du moins beaucoup plus proches entre les différents groupes que les évolutions fortement divergentes observées en pratique. Que l'on me comprenne bien, il ne s'agit évidemment pas de nier ici l'importance déterminante des investissements dans la formation et dans l'enseignement supérieur défendus par Katz et Goldin. Cette politique visant à favoriser un plus large accès aux universités est indispensable et cruciale à long terme, aux États-Unis comme dans tous les pays. Simplement, Si souhaitable soit-elle, cette politique n'a sans doute qu'un impact limité sur le phénomène d'explosion des très fortes rémunérations américaines observées depuis les années 1970-1980. Autrement dit, plusieurs phénomènes distincts se cumulent au cours des dernières décennies. Il y a d'une part la progression de l'écart salarial moyen entre les personnes diplômées de l'université et celles qui se sont arrêtées en fin de lycée, phénomène dont parlent Goldin et Katz et qui est une réalité. Et il y a d'autre part l'envol des rémunérations des 1% et plus encore des 0,1% qui est un phénomène tout à fait spécifique qui se déroule au sein même des diplômés universitaires et souvent parmi des personnes ayant suivi les mêmes filières longues et élitistes. Or, il se trouve que ce second phénomène est quantitativement plus important que le premier. En particulier, nous avons vu dans le chapitre précédent que l'envol du centile supérieur explique la plus grande partie, près des trois quarts, de l'augmentation de la part du décile supérieur dans le revenu national américain depuis les années 1970. Il est donc essentiel de trouver une explication adaptée pour ce phénomène, et a priori, la piste éducative n'est pas la bonne.